VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Élection au Bénin, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, a finalement annoncé dans la nuit de mardi à mercredi les résultats préliminaires des élections législatives du 28 avril, marqués par un taux de participation de 22,99%, soit le plus bas de l'histoire du pays. L'opposition n'ayant pas été autorisée à participer au scrutin pour des raisons administratives, deux partis proches du pouvoir, le Bloc républicain et l'Union progressiste, se partageront donc les 83 sièges du nouveau Parlement. D'après les résultats publiés, l'Union progressiste recueille jusqu'à présent 645 214 voix pour un total de 47 sièges probables et le Bloc républicain 502 411 voix pour 37 sièges. Les suffrages exprimés s'élèvent seulement à 1 147 265 voix, soit à peine un cinquième des 4 992 399 électeurs inscrits. Le taux de participation à des élections au Bénin n'était jamais descendu sous la barre des 50% depuis que le pays est entré en démocratie en 1990 et est considéré comme un modèle dans ce domaine en Afrique de l'Ouest. En Guinée, poursuite du bras de fer entre les partisans et les adversaires de possible troisième mandat pour le président Alpha Condé. Des heurts ont eu lieu mardi dans deux villes du pays entre les supporters des deux camps rivaux. Il y a eu des blessés et des arrestations. Morgan Guerriek.
Les tensions entre partisans et opposants d'un troisième mandat du président Condé sont survenues à Kankan, dans l'Est, et à Sangaredi, dans l'Ouest du pays. À Kankan, un fief de M. Condé, des manifestants ont scandé des slogans comme « Non à un troisième mandat pour le président ». Des militants du pouvoir ont tenté de leur barrer la route. Le barrage a éclaté, il y a eu plusieurs blessés et au moins 12 opposants ont été arrêtés. À Sangaredi, les manifestants ont scandé 2020 sans Alpha Condé. Les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène pour les disperser. Le président Condé a été élu en 2010, puis réélu en 2015. Ses opposants, qui le soupçonnent de vouloir modifier la Constitution pour briguer un troisième mandat, ont créé début avril un front regroupant les partis politiques d'opposition, les syndicats et la société civile. Monsieur Condé, 81 ans, n'a jusqu'à présent pas annoncé de modification de la Constitution pour pouvoir se représenter en 2020.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique centrale maintenant, au Congo-Brazzaville, les conditions de détention du général Jean-Marie Michel Mokoko, condamné à 20 ans de prison, ont été durcies par les autorités. Ses avocats dénoncent une nouvelle violation des droits de l'opposant. Eki Abadou.
Je n'ai plus accès au général Mokoko depuis 10 jours, a déclaré maître Yvon-Éric Ibwanga, l'un de ses avocats. Il a affirmé que le régisseur de la maison d'arrêt lui a fait savoir qu'il a reçu l'ordre de sa hiérarchie d'interdire toute visite à son client qu'il a définitivement condamné. Maître Ibwanga a ajouté que monsieur Mokoko est enfermé 24 heures sur 24 et qu'il a vraiment besoin de passer des examens de santé vu les conditions de son enfermement. Âgé de 72 ans, le général Jean-Marie Michel Mokoko, ex-chef d'état-major de l'armée, était conseiller du président Denis Sassou Nguesso et s'est présenté contre lui à l'élection présidentielle de 2016. Il a été arrêté en juin 2016 après avoir refusé avec d'autres candidats de reconnaître la victoire de M. Sassou Nguesso. Le général Mokoko a été condamné en mai 2018 à 20 ans de détention criminelle pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État à l'issue d'un procès qu'il a qualifié de règlement de compte politique.
On reste au Congo-Brazzaville. Plusieurs leaders de partis de la majorité présidentielle sortent de leur mutisme et de la solidarité des institutions en dressant un tableau sombre de la gouvernance dans le pays. Ces leaders politiques, proches du président Denis Sassou Nguesso, ont notamment dénoncé le manque d'action dans la lutte contre la corruption et l'absence des solutions aux problèmes de la population, nous dit notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
En 22 ans de pouvoir depuis la fin de la guerre de 1997, jamais la majorité présidentielle ne s'était livrée à un tel exercice. Critiquer sans tabou l'action du gouvernement avant de proposer des solutions. Pour Pierre Ngolo, le secrétaire général du PCT, le parti présidentiel, mais aussi président intérimaire de la majorité au pouvoir, le jeu valait la chandelle.
Une réflexion collective, critique, rigoureuse et sans tabou qui donne à la fin de vraies réponses aux vrais sujets de préoccupation de nos compatriotes. Devant les interrogations, le doute et les inquiétudes des citoyens sur leur quotidien, nous devons penser, bien penser et agir efficacement, pour autant qu'il nous incombe de redonner espoir et confiance aux Congolais, à tout notre peuple. Nous demandons de vaincre le scepticisme.
La critique de la majorité présidentielle a touché tous les domaines et la lancinante question de la corruption a été sur toutes les lèvres. Extrait du communiqué final de ces universités de la majorité au pouvoir.
La corruption, la concussion, la fraude et autres crimes économiques occasionnent des enrichissements sans cause et ruinent l'économie nationale. La corruption constitue un véritable fait de société qui gangrène dangereusement la vie des populations. Elle est principalement due à la faiblesse dans la gouvernance, l'impunité, appliquer la loi sur la déclaration du patrimoine en vue de renforcer la lutte contre les détournements des deniers publics. Rendre opérationnels les différents organes légaux de contrôle et de lutte contre la corruption et tous les actes inciviques, particulièrement la Haute Cour de justice et la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Traduire en justice les auteurs d'actes d'antivaleur et faire aboutir les procédures irrelatives, quel que soit le statut et le rang des personnes incriminées.
Beaucoup de Congolais saluent cette initiative, mais estiment en même temps que le pouvoir se flagelle et se tire une balle dans le pied. Pour l'opposant, pour le Makaya, la solution se trouve dans un dialogue inclusif.
Il faut qu'on mette en place une commission préparatoire mixte paritaire. Opposition, pouvoir, société civile et la diaspora. Parce qu'il s'agit du pays qui est malade. Il ne faut pas tergiverser. Nous sommes tous de passage. Qu'est-ce qu'on va laisser à ces générations futures? Non, il faut arrêter de blaguer avec ce peuple. Ce peuple a trop souffert.
Les 42 recommandations formulées par la majorité au pouvoir devraient permettre au gouvernement de revoir sa copie jusque-là insatisfaite. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Mouvement de contestation au Soudan. Le principal groupe de la contestation a appelé à une marche d'un million de manifestants jeudi après l'annonce par les militaires au pouvoir que leur chef Abdel Fattah al-Burhan dirigerait le futur conseil conjoint avec les civils. Les précisions d'Irénée Amanoumbo.
Objet de nombreux désaccords entre les contestataires et l'armée, ce conseil conjoint est censé remplacer le conseil militaire de transition. L'un des chefs de l'association Fer de Lance de la contestation a accusé les militaires de ne pas vouloir céder le pouvoir au peuple. Le conseil militaire maintient que le conseil conjoint souverain devrait être dirigé par les militaires avec une représentation civile, a critiqué Mohamed Nadi Al-Assam, dénonçant la tentative des militaires d'accroître leur pouvoir quotidiennement. Les militaires ont annoncé la mort de 6 membres des forces de sécurité, tués selon eux dans des heurts avec les manifestants. L'association des professionnels soudanais les a accusés d'avoir tenté de disperser le sit-in qui se tient depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum, ce que nient les militaires. L'Alliance pour la liberté et le changement a alors appelé à une marche 2 millions de manifestants pour demain 2 mai 2019 afin d'affirmer sa principale revendication, un pouvoir civil.
Tout le Venezuela pour terminer. Le président autoproclamé Juan Guaido a appelé à une autre journée de protestation massive ce mercredi pour forcer le président Nicolas Maduro à quitter le pouvoir. Michel Joseph.
Juan Guaido a qualifié de fausses hier soir les affirmations de M. Maduro selon lesquelles ce dernier aurait encore le respect et le soutien de l'armée. Les manifestations contre Maduro sont suivies attentivement à travers le monde et le peuple vénézuélien doit accentuer la pression sur le régime. Pour sa part, Nicolas Maduro est apparu à la télévision pour accuser l'opposition de tenter d'imposer au pays un gouvernement illégitime appuyé par les États-Unis et la Colombie. Selon lui, le Venezuela est victime de toutes sortes d'agressions. Le président américain Donald Trump a, quant à lui, menacé Cuba, je cite, d'un embargo total et du plus haut niveau de sanctions si la Havane ne mettait pas immédiatement un terme à son soutien militaire et autres au régime de Maduro. Quelques minutes après le tweet de M. Trump, son secrétaire d'État Mike Pompeo a affirmé que Nicolas Maduro était prêt à quitter le Venezuela mardi matin pour la Havane, mais qu'il en a été dissuadé par les Russes. L'administration Trump estime que M. Maduro se maintient au pouvoir à cause du soutien des Russes et des Cubains.